Le journal Alexandra Dubucheron.
Bonjour à toutes et à tous. Et à la une ce matin, cette question, les annonces d'Emmanuel Macron ont-elles calmé les gilets jaunes? Journée test aujourd'hui avec l'acte 5 du mouvement.
Paris est sous haute sécurité, nous serons place de l'Étoile dès le début de ce journal avec notre journaliste Alice Serrano. Nous entendrons aussi la crainte des commerçants en Gironde.
69 000 policiers et gendarmes sont déployés sur tout le territoire aujourd'hui dans un contexte sécuritaire déjà tendu après l'attentat de Strasbourg. Et puis on s'intéresse ce matin au rôle des militaires de l'opération Sentinelle sur les marchés de Noël. Édouard Philippe a annoncé des renforts hier soir. L'invité actu, juste après ce journal, Caroline, il est économiste.
Oui, parce que vous parlez de sécurité, mais il est aussi question d'économie. Avec cette question, les annonces d'Emmanuel Macron ont-elles calmé les gilets jaunes? Nous recevons Gilbert Sette, qui est président du groupe d'experts sur le SMIC et professeur associé à l'université d'Aix-Marseille.
La COP24 joue les prolongations. Les négociations se poursuivent aujourd'hui en Pologne sur la conférence climat. Trop lente, pas assez ambitieuse, dénonce l'ONG CARE, vous l'entendrez. Les gilets jaunes s'apprêtent donc à une nouvelle journée de colère un peu partout en France, sur les ronds-points et dans les rues. Cinquième samedi de ce mouvement spontané et protéiforme. Cinquième samedi aussi de crainte pour l'exécutif face aux casseurs. La sécurité sera maximale, prévient le gouvernement. À Paris notamment, le dispositif sera semblable à celui de la semaine dernière. La place de l'Étoile notamment sera particulièrement surveillée. C'est là que vous vous trouvez, Alice Serrano. Et pour l'instant, le quartier est plutôt désert.
C'est quasiment un samedi normal, place de l'Étoile, les voitures circulent, les quelques piétons aussi, sous le regard des gendarmes mobiles déjà postés tout autour de l'Arc de Triomphe pour protéger ce monument qui avait été vandalisé il y a 15 jours. Je vous rappelle que 8000 gendarmes et policiers sont déployés aujourd'hui dans la capitale. Les Champs-Élysées, eux, sont quasiment déserts. Image étonnante à 15 jours de Noël. Quasiment tous les magasins se sont barricadés derrière des parpaings, des grillages, des plots de béton, même pour certains. Dispositifs impressionnants, hein, en attendant les gilets jaunes et les éventuels casseurs. Je vous rappelle que les policiers ont changé de méthode, hein, par rapport à ce fameux samedi noir. Il y a 15 jours, beaucoup plus d'unités mobiles. Aujourd'hui, une cinquantaine, et des fouilles préventives à la sortie des stations de métro, de RER, des gares, dans la rue. De gros moyens sont aussi employés. 14 blindés de la gendarmerie sont mobilisés. On vient de voir passer deux gros canons à eau. Mais pour le moment, place de l'Étoile, pas l'ombre d'un gilet jaune.
Alice Serrano, place de l'Étoile à Paris pour France Culture. Au total en France, donc 69 000 membres des forces de l'ordre sont déployés. C'est 20 000 de moins que samedi dernier. Mais dans certaines villes, des renforts sont prévus, comme à Toulouse et à Bordeaux, cible de violence la semaine dernière.
Oui, mais à Bordeaux, les commerçants restent malgré tout très inquiets.
Ils redoutent les mêmes scènes de casse et de pillage. Ils craignent surtout pour leur chiffre d'affaires. Stéphane Hitchcock a fait le tour des boutiques de la rue Sainte-Catherine dans le centre-ville.
Les services de la mairie ont fait passer la consigne. Surtout ne rien laisser traîner dans la rue qui pourrait servir de projectile aux casseurs. Ce gérant d'un magasin d'occasion a prévu d'anticiper l'arrivée du cortège.
Ramasser tout ce qu'on a dehors en visuel, mes vélos par exemple. Et on sera peut-être obligé de fermer le rideau quoi, pour anticiper.
C'est ce que vous avez fait samedi dernier?
Tout à fait. Nous avons fermé une heure plus tôt et on a laissé passer les manifestants. Et les casseurs.
En face, dans une boutique de vêtements, une employée installe des décorations de Noël. Mais elle n'a franchement pas la tête à ça.
On subit les événements, on ne sait rien, on ne sait pas. On attend de voir comment ça va se dérouler. Et puis on avisera suivant les circonstances, en espérant que ça ne recommencera pas comme samedi dernier. On est employés, on travaille, on se lève tous les matins pour gagner notre argent, payer notre facture. Donc on est comme eux, on n'est pas plus riches. Je comprends leur mouvement, mais je comprends pas qu'on casse, qu'on détruise. C'est du grand n'importe quoi.
Le mouvement des gilets jaunes a déjà coûté très cher aux commerçants de la rue Sainte-Catherine. Ce bijoutier a fait ses comptes.
On peut vous dire que c'est catastrophique, quoi. Surtout le samedi. La semaine encore, il y a une baisse de 20-30%, mais le samedi, ça a été 50%. On verra à la fin de l'année. Si avec les charges si on peut étaler, voilà. Les impôts aussi, la TVA, parce que là ils sont en train de tuer tous les commerces du centre-ville.
Un reportage de Stéphane Hitchcock de France Bleu Gironde. Alors les gilets jaunes seront-ils aussi nombreux que pour l'acte 4? 136 000 personnes étaient réparties dans toute la France la semaine dernière. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures sur le SMIC, les heures supplémentaires, la CSG notamment. Le gouvernement a aussi appelé à suspendre le mouvement en raison du contexte sécuritaire au lendemain de l'attentat de Strasbourg. Et ce que vous avez constaté, David Ravier, c'est que les gilets jaunes sont partagés.
Poursuivre le mouvement dans la rue ou autour de la table des négociations, c'est le dilemme des manifestants. D'un côté, une partie des gilets jaunes reste motivée à descendre dans la rue pour continuer la lutte qu'ils ont engagée le mois dernier. Sur Facebook, les appels à battre le pavé pour l'acte 5 sont toujours suivis par des milliers d'internautes. Cette catégorie de la population n'a pas été convaincue par les annonces d'Emmanuel Macron qu'elle juge insatisfaisantes, au même titre qu'une quinzaine d'organisations, dont le Parti de gauche, le Syndicat Solidaire et l'Association Attaque, qui appellent également à maintenir les manifestations. D'autres, en revanche, veulent laisser une place à la discussion. C'est notamment le cas des Gilets jaunes libres, la branche créée par Benjamin Cauchy, l'un des 8 premiers porte-parole désignés du mouvement. Cette frange de la contestation estime que la trêve et le dialogue avec le gouvernement sont leurs meilleures armes afin d'organiser une sortie du conflit par le haut. Dans le mouvement, certains sont également tentés d'abandonner la rue pour prendre les urnes d'assaut en s'organisant en liste politique afin de combattre le gouvernement sur son terrain lors des élections européennes de l'année prochaine. Enfin, des gilets jaunes qui veulent continuer la lutte mais qui resteront chez eux comme le préconise l'exécutif, il y en a aussi. Après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg et les violences lors des rassemblements de ces dernières semaines, le contexte sécuritaire pourra bien en dissuader plus d'un d'aller manifester.
Et puis hier, le Premier ministre a détaillé les modalités d'application des fameuses primes de Noël qu'Emmanuel Macron a demandé aux entreprises de verser à leurs salariés sur la base du volontariat. Ces primes seront réservées aux salariés touchant jusqu'à 3600 euros mensuels nets et elles seront défiscalisées jusqu'à 1000 euros, a indiqué Édouard Philippe.
La vie doit reprendre ses droits, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir à Strasbourg.
De retour du Conseil européen à Bruxelles, le chef de l'État a fait une halte dans la capitale alsacienne, 3 jours après l'attaque terroriste qui a fait 4 morts et 12 blessés. Et au lendemain de la mort du suspect numéro 1, Chérif Chekat, il a rendu hommage aux victimes. Une minute de silence, place Kléber. Il a également rencontré leurs proches et salué les forces de l'ordre. Et puis le président s'est rendu sur le marché de Noël pour un bain de foule dans le calme. Le marché de Noël, théâtre de la tuerie de mardi, venait de rouvrir ses portes sous le regard des militaires de l'opération Sentinelle. Cette opération, lancée après les attentats de janvier 2015, doit encore être renforcée. Édouard Philippe a annoncé le renfort de 1800 supplémentaires pour assurer la sécurité des lieux de Noël partout en France. Et la spécificité de ces forces, eh bien, c'est leur mobilité, comme on l'a vu Thomas Larabi lors de l'attaque de Strasbourg.
Mardi soir, peu avant 20h, attirée par les premières détonations, une patrouille de 4 sentinelles tombe nez à nez avec Chérif Chekat au coin d'une rue commerçante. Des coups de feu sont échangés, l'assaillant est blessé au bras et s'enfuit, puis s'engouffre dans un taxi. Ce premier groupe de sentinelles est ensuite rapidement rejoint par d'autres qui toute la soirée participent à la traque, bouclent certains quartiers et portent assistance aux blessés. Des forces mobiles d'autant plus indispensables que les événements comme le marché de Noël de Strasbourg sont impossibles à protéger à 100% selon Pierre Servant, spécialiste des questions de défense.
On ne peut pas mettre un soldat, un gendarme, un policier derrière chaque citoyen, d'où l'importance d'avoir ce système mobile, la capacité aussi de réaction dès qu'il se passe quelque chose à un endroit. C'est un maillage qui a été mis en place pour qu'il y ait capacité de réaction, de force d'intervention qui soit, je crois, au maximum à 15 minutes, 20 minutes de n'importe quel point de France qui serait touché. Malheureusement, nous sommes dans des sociétés fragiles, ouvertes, où le risque zéro ne peut pas exister. Donc il faut, là aussi, en tant que citoyen, rester vigilant.
D'autant que, malgré leur rôle prépondérant mardi, l'environnement urbain ne leur rend pas la tâche facile.
La difficulté pour les soldats sentinelles, c'est qu'ils sont équipés d'armes de guerre très puissantes, notamment le FAMAS, et que, quand ils sont intervenus, il y avait certainement des civils à proximité du terroriste, puisqu'il y avait malheureusement d'en tuer et d'en blesser. Et donc, les soldats français, bien évidemment, font très attention à l'usage de ces armes qui sont très puissantes.
Depuis leur déploiement en 2015, les militaires de l'opération Sentinelle ont ouvert le feu à 5 reprises, notamment à Marseille l'an passé sur le parvis de la gare Saint-Charles, pour abattre un homme ayant déjà poignardé 2 jeunes femmes.
Thomas Larabi a noté que le plan Vigipirate a été ramené au niveau 2 sur 3, niveau risque attentat hier soir au lendemain de la mort de Chérif Chekat.
France Culture 8h09, suite du journal Alexandra Dubouchron, la course contre la montre à la COP24 en Pologne.
Oui, à Katowice, les négociateurs de la conférence climat se sont accordés une nuit supplémentaire de discussion. Ils espèrent toujours un accord ambitieux. En clair, trouver le mode d'emploi du pacte de Paris pour limiter, on le rappelle, le réchauffement à 2 degrés, voire 1 degré et demi par rapport au niveau pré-industriel. Mais en 2 semaines de COP, la publication de nouveaux projets a déjà été reportée plusieurs fois. Il y a aussi eu ce rejet du rapport scientifique du GIEC par plusieurs pays comme les États-Unis. Bref, pour Fanny Petitbon, membre de l'ONG CARE, malgré la pression citoyenne et malgré les beaux discours sur l'urgence climatique, tout cela ne va pas assez vite.
Il y a tout ce qu'on entend, c'est-à-dire les impacts, la science, les gens qui viennent témoigner ici de ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis il y a les négociateurs qui avancent encore trop lentement, bien trop lentement. Surtout ici, ce qu'on attendait, c'était un engagement des États à dire « on va rentrer chez nous ». Et on va faire en sorte de revoir notre copie avec notre population, parce qu'on a vu aussi pendant cette COP, à la fois à travers l'exemple de la Pologne sur la transition juste ou avec la France sur les gilets jaunes, qu'il faut associer la population aux décisions, prises de décisions climatiques. Donc il faut absolument qu'il y ait cet engagement à rentrer chez soi et à être enfin sérieux sur comment lutter contre le changement climatique.
On a vu beaucoup de ministres quitter cette COP avant la fin. C'est le cas de la France, c'est assez inhabituel.
Effectivement, c'est assez inhabituel et c'est assez en déconnexion avec le discours de la France qui se veut quand même progressiste, à la fois avec suite à l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, le fait de pousser pour une position européenne plus ambitieuse d'ici 2030, et puis pas de présence au niveau ministériel dans un moment où c'est là où les décisions des compromis sont décidées, et l'absence française est remarquée malheureusement.
Fanny Petitbout, membre de l'ONG CARE, au micro de Véronique Rébérotte. Nouvelle montée de tension entre Jean-Claude Juncker et Viktor Orban. Hier, depuis le Conseil européen de Bruxelles, le président de la Commission européenne a accusé le Premier ministre hongrois de mener des campagnes de désinformation sur le Brexit, mais aussi sur la migration. Un peu plus tôt, le Premier ministre belge Charles Michel a lui dénoncé, je cite, la campagne de mensonges délibérément orchestrée sur le pacte de l'ONU pour les migrations. En Belgique, ce pacte a eu pour conséquence la rupture de la coalition gouvernementale qu'il formait avec les nationalistes flamands. Et alors que la question des migrations divise de nouveau l'Europe, le patronat allemand, lui, se félicite des chiffres encourageants sur l'intégration des demandeurs d'asile dans le pays. Plus d'un million de réfugiés sont arrivés en Allemagne depuis 2015, ce qui était à l'origine de tensions politiques récurrentes. Correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu.
Un peu d'air pour Angela Merkel. La chancelière peine jusqu'à présent à valider auprès d'une partie de l'opinion publique allemande son « Wir schaffen das », expression lâchée en 2015, devenue célèbre « On va y arriver » au sujet de l'intégration des réfugiés. Ces nouveaux chiffres viennent dire que l'intégration du plus du million de demandeurs d'asile entrés en Allemagne depuis 3 ans est possible. « Je suis moi-même surpris », lance le patron des patrons allemands en annonçant que 400 000 de ces nouveaux arrivants ont soit un emploi, soit suivent une formation par alternance. Premier résultat payant de la loi d'intégration adoptée en 2016, centrée sur le marché du travail, ce texte accorde quelques avantages aux demandeurs d'asile en échange d'une participation active à leur propre intégration, notamment des cours de langue obligatoires pendant 9 mois. Certes, cela ne représente à peu près que 20 à 25% d'une population qui trouve à s'insérer dans la vie active. Les patrons invitent le gouvernement à faire plus car ils peinent à recruter et cette pénurie de main-d'œuvre freine une économie allemande qui a besoin de cette force de travail souvent jeune dans un pays à la population vieillissante.
Ludovic Piétenu pour France Culture. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont progressé hier dans le sens d'une plus grande intégration de la zone euro pour prévenir de futures crises. Mais des dossiers importants, à commencer par l'idée d'un budget de la zone euro, sont renvoyés à plus tard. Les conclusions du Conseil européen vont nettement moins loin que les propositions portées par Emmanuel Macron propositions qui se sont heurtées à l'opposition de pays nordiques alliés aux Pays-Bas et souvent à la tiédeur de Berlin. Et puis profondément divisés, les dirigeants des 27 ont déclaré qu'ils se décideraient plus tard sur le montant de ce budget spécifique, mais ils ont noté qu'il s'insérerait dans le budget global de l'Union européenne limité à 1% du revenu national brut européen. Enfin, Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, a dit hier qu'il espérait parvenir à un accord avec la Commission européenne ce week-end sur son projet de budget révisé de 2019 afin d'éviter une procédure disciplinaire. Cesare Battisti, toujours activement recherché au Brésil. Hier, le président Michel Temer a signé l'acte d'extradition de cet ancien militant d'extrême gauche vers l'Italie, son pays, où il a été condamné par contumace pour 4 homicides dans les années 70, les années de plomb. On revient sur cette journée de colère jaune avant de terminer ce journal. Journée de colère jaune aujourd'hui en France, mais cette fois côté route. Caroline Pommès, vous êtes au PC Mobilité de Radio France. Et Caroline, il y a déjà des routes fermées ce matin.
Oui, les autorités ont préféré prendre des mesures de sécurité pour ce cinquième acte, ce cinquième samedi. Dans le sud de la France, là où la mobilisation est la plus forte, plusieurs axes autoroutiers sont fermés. C'est le cas au nord de Bordeaux. L'autoroute A10 est fermée à hauteur de la barrière de péage de Virsac, un des points chauds des manifestations. Le secteur est saturé, de nombreux bouchons sur les départementales adjacentes. Dans le sud-est, sur l'autoroute A7, les préfectures ont fermé le péage de Bolène et celui d'Avignon Nord. Des péages fermés, mais les gilets jaunes y sont quand même postés. Ils sont en moyenne 7000 chaque jour depuis le début du mouvement sur les ronds-points et aux péages. Et puis à Paris, aujourd'hui, comme samedi dernier, c'est presque ville morte. La RATP a pris des mesures de sécurité. Une cinquantaine de gares et stations sont fermées aujourd'hui, comme les Invalides, la place de l'Opéra ou encore Bastille. La mairie de Paris a également retiré les vélos sur une centaine de stations Vélib pour éviter qu'ils soient utilisés en tant que projectiles.
Caroline Pommès du PC Mobilité de Radio France. Le temps sera froid et perturbé aujourd'hui. Le pays coupé en deux, soleil à l'est, pluie à l'ouest. À l'ouest, où 8 départements sont sous vigilance orange, neige, verglas. Les températures, les minimales entre moins 6 et moins 2 degrés dans les terres, de 3 à 6 degrés sur la façade atlantique et au bord de la Méditerranée.